On s'en va dans le beau livre de Ruth. On va relire juste quelques petits versets, en fait, deux dans le chapitre 1, deux dans le chapitre 2, qui nous remettent dans ces deux chapitres-là. C'est vraiment les versets clés de ces deux chapitres. D'abord, la belle confession de foi de Ruth. Et ensuite, ce que Boaz prononce sur elle dans le chapitre 2. Donc, on va commencer Ruth 1, 15. Tout le monde est là. Ruth 1, 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle... Oui, c'est ça. Ta belle-mère est retournée vers... Ta belle-sœur, oui, c'est pour ça qu'il ne marchait pas mon affaire. Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et donc, on arrête là, puis on va lire au chapitre 2, le verset 11 et 12. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère dès la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Seigneur, oui, on vient se réfugier sous ton aile. Nous, ton peuple, fragile et faible, on vient, Seigneur, dans notre faiblesse, afin que ta puissance s'accomplisse. Merci que tu es notre sagesse, tu es notre force, tu es notre tout en tous. Merci que lorsqu'on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Et Seigneur, on désire plonger les regards dans ta parole pour te voir. Merci que tu te révèles de tellement de façons, d'une richesse inouïe dans ce beau livre court de l'Ancien Testament. Mais Seigneur, on voit ta fidélité, on voit ta souveraineté, ta bonté. On te voit comme notre proche parent rédempteur, une belle image de la rédemption en Jésus-Christ, Seigneur. Alors, on te prie d'ouvrir nos yeux, disposer nos cœurs et qu'on reçoive de ta main ce que tu as pour nous, chacun ici, mais aussi comme Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je rappelle qu'on est dans une petite mini-série de trois messages qui se suivent tous les uns les autres. La semaine dernière, on a commencé à regarder l'album photo de Christ, notre rédemption, avec la première photo qui était dans Genèse 22, avec le sacrifice que Abraham s'est fait demander d'offrir. Et on a vu comment tout ça était une image de Christ et comment c'est une image de la rédemption. On a appris des belles choses là-dessus. Aujourd'hui, on regarde la photo numéro 2, une deuxième image. Et je dirais que cette image nous dresse un portrait de Jéhovah Oshia, l'Éternel sauve. La semaine passée, c'était l'Éternel Jéhovah Jiré, Dieu pourvoira, Dieu a pourvu. Mais là, on regarde aujourd'hui le Dieu qui sauve, qui rachète, qui réconcilie. C'est toute la richesse de ce mot. Jéhovah ou Yahvé ou YHWH, Oshia. Quand il chantait Hosanna au Fils du Dieu Très-Haut, c'est la racine de ça. Dieu sauve, Hosanna, Oshia, Jésus. Son nom aussi a cette racine-là, Jésus. Yehoshua, c'est toute la même racine qui nous parle de salut. Donc, il y a cette notion-là qu'on a à travers le livre de Ruth, le Dieu qui sauve, qui rachète, mais aussi on a notre Rédempteur fidèle. On voit la fidélité ici parce que le salut de Ruth est, je dirais, la clé ou un chaînon très important dans la lignée messianique. Et ça, dans une époque où tellement peu étaient fidèles à l'Éternel, Dieu demeurait fidèle. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et qu'on puisse trouver dans ça un réconfort. Un réconfort alors qu'on va se pencher sur ce merveilleux livre qui dresse un portrait pertinent et actuel de Christ, notre rédemption. Il est notre rédemption parce qu'il est le seul qui sauve, le seul qui délivre, le seul qui restaure. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, ce livre est d'actualité parce que c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui et qui restaure, qui rachète, qui renouvelle encore. Et ce, peu importe dans l'état dans lequel on peut se trouver individuellement ou l'Église de Jésus-Christ dans un état aussi pitoyable puisse-t-il être parce qu'il est fidèle et va agir selon sa promesse. Il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Les bons, les mauvais, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, on ouvre notre album photo ce matin, une fois de plus, pour nous tourner vers cette image unique où est-ce qu'on va voir ensemble trois faits concernant Christ, notre Rédempteur fidèle. D'abord, au verset, chapitre 2, verset 11, Boaz parle, puis c'est important ce qu'il dit, parce qu'il dit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Considérons d'abord la place de cette image dans le récit rédempteur. La place de l'image, c'est simplement une place d'espérance, de pérennité du plan rédempteur. Dieu n'avait pas arrêté son plan, le plan continuait. Ce récit qu'on a lu en partie ce matin nous est donné ou est vécu dans une époque de déchéance sociale et spirituelle qui nous est décrit en détail dans le livre des Juges, mais on apprend dès le premier verset à l'époque des Juges. Et là, il n'y avait pas grand monde qui méritait quelque chose là, de la part de l'Éternel ou qui était donc fidèle à lui. Puis je dirais que, humainement parlant, il n'y avait rien pour ce à quoi s'accrocher comme espérance en dehors de Dieu. Si on regardait dans la société, si on regardait l'état spirituel du peuple de Dieu à ce moment-là, il n'y avait rien en dehors de Dieu et ses promesses faites au Père quant à la lignée messianique. Et c'est ça l'espérance qu'il y a là-dedans. Et le verset qu'on vient de lire par rapport à ce que Boaz dit à Ruth, ça montre que l'espérance en ce Dieu et en ses promesses, c'était la force motivatrice de la foi de Ruth. Ruth n'était pas de naissance juive, n'a pas été élevée avec la parole de Dieu, mais elle s'est mariée avec un homme et d'une famille qui connaissait la parole de Dieu, elle y était exposée, et donc elle a tout quitté parce qu'elle a découvert Christ, son trésor. Elle a découvert que l'Éternel est le plus grand des biens, la plus grande récompense. N'est-ce pas que ça fait écho à ce que Paul lui-même dit lorsqu'il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Ruth est une belle image de ça. Et dans ce sens, c'est important de noter que l'espérance, c'est la deuxième des vertus théologales. Et là, je vais dire un gros mot. On ne dit pas des gros mots à l'Église. Vertu théologale, ça veut juste dire les vertus qui nous rattachent à Dieu. La foi, l'espérance, l'amour. Ma foi, mon espérance et mon amour, c'est le fondement de ma relation avec Dieu. Quand on entend ça par un théologien, c'est juste un peu pour nous faire peur, mais ça veut simplement dire ça. C'est ces vertus qui sont l'essence de notre relation avec Dieu, qui nous rattachent à lui, qui nous connectent à lui. Donc, c'est d'une importance vitale. Parce que si on perd espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes les pires des hommes. Écoutez ce que ça nous dit dans 1 Pierre à ce sujet-là. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Écoutez aussi 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si on n'a pas d'espérance, on est les plus malheureux de tous les hommes. Tout comme l'histoire de Ruth est un pont, est une jonction importante entre la déchéance, le désespoir humain qu'on voyait à l'époque des juges versus la fidélité de Dieu à ses promesses. De même, on doit, dans le moment actuel, là où Dieu nous a placés en ce moment, se nourrir d'espérance. Pas à cause des circonstances dans lesquelles on est, à cause du Dieu qui est au milieu de ces circonstances. C'est ça la grande leçon de Ruth. Dieu était là, fidèle, même si le peuple de Dieu n'était pas fidèle. Et même envers ceux qui ne connaissent même pas Dieu et qui le connaissent comme, qui le découvrent comme Ruth aussi. L'a découvert. Et cette espérance présente, elle est garante, elle est le pont, elle est la jonction avec les plans futurs de Dieu. On ne sait pas où est-ce que la journée maintenant va nous amener dans le futur, c'est quoi le futur, mais on sait c'est qui est là. Et il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Jérémie 29, 11. Ah, on va se pitcher des chocolats. Je dirais ce matin, est-ce que tu as perdu espérance? Que ta situation est quand même rachetable, que Dieu peut restaurer, que Dieu peut sauver. En as-tu perdu l'espérance? Si tu appartiens au grand roi, si tu connais le Rédempteur qui est fidèle, si tu connais Jéhovah Oshia, l'Éternel sauve, tu ne dois pas perdre espérance parce qu'il est fidèle pour délivrer de toute situation et dans toute situation. Vous savez, non seulement il y avait ici une situation spirituellement difficile avec l'époque des juges, mais aussi il y avait une famine. On apprend ça au début. Puis, c'est pas la première fois qu'on voit des gens quitter la terre promise, quitter la terre sainte pour aller se réfugier ailleurs. Okay? On voit ça au début du livre, hein, avec Élimélec qui s'en va avec sa famille. Il y en a d'autres, eux sont partis à Moab. Il y en a d'autres sont partis en Égypte, hein, qui est comme un type du monde, Abraham, Isaac. Le peuple d'Israël, on voit dans les prophètes, dont Jérémie et Ézéchiel, si je ne me trompe pas, ont voulu aussi aller chercher le secours en Égypte. Et ainsi, ils ont manqué, écoutez bien, à cause qu'ils sont allés ailleurs au moment de la famine que Dieu amenait là, ils ont manqué la bénédiction de la présence de Dieu dans l'affliction. Et comment Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, est un exemple de ça. Dieu l'a rencontré en plein dans son affliction. Puis Joseph est un type de Christ, on aurait pu faire une image aussi avec lui, sur notre rédemption, mais bon, peut-être pour un message plus tard, mais il y a un trait unique de notre rédemption. C'est que nous sommes délivrés, restaurés de nos mauvais choix et dans nos mauvais choix. Fait que même quand c'est pas idéal, Dieu est capable de transformer le mal en bien. Même si on a fait le mauvais choix comme Élimélec d'aller à Moab ou comme Abraham, Isaac d'aller en Égypte, Dieu n'est pas limité, Dieu est plus grand que ça, puis Dieu restaure, renouvelle. C'est vraiment ça l'image ici, c'était une famine, ça allait pas bien, ils n'ont même pas pris la bonne décision, mais Dieu était fidèle à ses promesses. On doit trouver un encouragement là-dedans, et c'est pour ça que je dis que ça a une place d'espérance dans le plan rédempteur de Dieu. Non seulement ça allait pas bien spirituellement, mais là, ces gens-là ont même pas pris la bonne décision, ils ont été se réfugier ailleurs que sous l'aide de l'Éternel, mais Dieu, qui est tellement bon, qui est si fidèle, était là au rendez-vous. D'où l'importance énorme de vivre d'espérance, de l'espérance d'une foi vivante dans l'affliction, dans l'épreuve. C'est là qu'il faut s'accrocher le plus. Puis souvent, ce qui arrive, quand les gens sont dans l'épreuve, ils s'en vont ailleurs pour trouver soit des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, soit le secours vain de l'Égypte qui est comme un roseau dans la main. Mais le refuge est auprès de l'Éternel. Et n'est-ce pas qu'il est bon d'attendre? D'attendre, en silence. Oh, le secours de l'Éternel. et ne pas s'appuyer sur notre sagesse, mais le reconnaître dans toutes nos voies, dans la famine comme dans l'abondance. Et je dirais qu'on voit quelque chose de précieux avec l'histoire de Ruth et avec cette femme bien-aimée qu'on aime tant. Elle a brisé cette tendance d'aller rechercher le refuge, la sécurité, hors de Dieu et dans le monde. Elle a pris le choix de la foi en allant contre toute logique humaine, mais elle a agi selon ce qu'elle connaissait de Dieu et elle s'est réfugiée là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de fort dans... Ruth, là, connaissait pas grand-chose de Dieu à comparer à bien du monde en Israël. Pour elle, c'était tout nouveau et tout ça. Mais ce qu'elle connaissait Dieu, donc c'est pas, l'important, c'est pas de tout connaître sur Dieu, mais ce qu'on connaît de Dieu, s'agripper à ça comme notre vie, parce que c'est notre vie. Notre vie en dépend. Elle s'est réfugiée par la foi auprès du Dieu qui sauve, qui est fidèle à ses promesses. Et donc, maintenant, elle fait partie, parce que elle... une païenne, fait maintenant partie de la lignée de Jésus-Christ à cause de cette foi, de cette espérance qu'elle avait en l'Éternel. Ruth est littéralement un type de l'Église dans l'Ancien Testament. Les païens rachetés par Boaz, Christ, notre proche parent rédempteur. Donc, c'est la place de cette image dans le plan rédempteur. Maintenant, la signification. La signification de cette image, qu'est-ce que ça veut dire cette image? On continue, on a lu le verset 11, lisons le verset 12. Encore Boaz qui parle, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La signification ici de l'image, c'est la fidélité du Rédempteur qui s'exprime par la sécurité qu'il donne à la place de la peur qui règne depuis la chute. N'est-ce pas en fait, la première chose qui est arrivée après la chute, sont allés se cacher. Puis Adam dit pourquoi? J'avais peur. Il avait peur de Dieu, il avait peur du seul être dans tout l'univers duquel on ne doit jamais avoir peur. Mais c'est ça la chute. Donc il a voulu trouver sa sécurité ailleurs que dans l'Éternel à cause du péché. Et combien cette image est forte ici avec Ruth, parce que dans la situation dans laquelle elle vivait, non seulement, oui, je viens de parler d'une famine, mais étant veuve, avec une belle-mère veuve, c'est la plus grande vulnérabilité qu'il pouvait y avoir à l'époque. Il n'y avait pas de tissu social, de filet social comme nous, on a à avoir l'assistance du gouvernement et tout ça. Il était dans une position de grande vulnérabilité. Et sur, en plus, le fond d'une déchéance morale, où est-ce que les gens, vu qu'ils étaient loin de Dieu, comment qu'ils pouvaient même avoir des soucis pour des veuves de même? Voyez-vous comment qu'on a vraiment ici une image tellement forte de la sécurité sur le fond de tout ce qui pourrait nous faire peur? Autrement dit, là, Ruth, là, si elle voulait là, se lever le matin et ne pas avoir des sujets, de s'inquiéter, puis d'avoir de l'anxiété, elle les avait toutes. Plus que n'importe qui ici. C'est ça qui fait la force. Cette toile de fond de désespoir dresse tout le portrait d'espérance. En plus, sa belle-mère avait perdu espérance. Quelqu'un m'a demandé, comment ça, elle change de nom, Mara? Mara, ça veut dire amère. Elle était amère, elle dit, l'Éternel m'a rempli d'amertume. C'était pas l'Éternel, c'est elle qui avait répondu à ce que l'Éternel avait permis en étant rempli d'amertume. Puis elle dit, il me ramène les mains vides. Il y avait la personne la plus précieuse. Elle avait la personne la plus précieuse à ses côtés. Puis elle dit, j'ai les mains vides. Dieu avait vidé ses mains pour les remplir avec cette femme d'exception, Ruth, qui était à ses côtés. Et n'est-ce pas aussi, je vous dis, tout pointe de tellement de façon à Christ, à sa rédemption. Ils atterrissent comme par hasard dans cette ville de Bethléem, qui veut dire... la maison du pain. Dieu ne les a pas laissés sur leur faim. Dieu allait les nourrir, les s'occuper d'eux autres. Et c'est aussi, évidemment, la ville du roi David. Et aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ultime roi d'Israël. En plus, Dieu utilise Boaz dans le récit pour relever le nom du défunt. Donc, toute cette situation de vulnérabilité, Dieu l'en sort. Parce que fallait que quelqu'un puisse relever le nom, ça veut dire s'occuper de l'héritage pour pas que ça aille à d'autres, parce que là, eux autres, ils se sont trouvés avec plus rien, aucun moyen de subsistance. Donc ça, ça pourvoyait à tous leurs besoins. Et là encore, on voit une image de Jésus-Christ. Notre Goël, encore là, c'est de l'hébreu. Goël, ça veut dire proche, parent, rédempteur. Jésus n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée, son égalité avec Dieu, mais se dépouillant lui-même, il a mis de côté certains attributs. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il est devenu homme, puis il est devenu semblable à nous, puis il a été comme un serviteur jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il est venu parmi nous pour nous relever de la mort, de la chute, de la destruction, pour nous donner la vie. Comme dans l'histoire ici, c'est quoi l'issue de l'histoire? C'est la vie. Ça commence avec la mort, ça finit avec la vie. C'est ça l'histoire de la rédemption. On est dans la mort, mais Dieu nous amène à sa vie. Écoutez à ce sujet-là un verset que peut-être vous n'aviez pas vu dans, sous cet angle-là, mais « Car lorsque nous étions encore ennemis dans la mort, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? » Romains 5, 10. Donc, un matin, c'est vital qu'on puisse comprendre comment la peur qui est toute la toile de fond ici pour ces deux femmes-là, a été remplacée par la sécurité. Et c'est par la foi qui se confie, qui se réfugie auprès de l'Éternel qu'on trouve cette sécurité. Et ici, on voit que Boaz dit que ta récompense soit entière, au verset 12, que ta récompense soit entière. Pourquoi? Parce que sa foi en Dieu, elle était entière. Il lui a été fait selon sa foi, selon son espérance. Il lui a été fait selon ce qu'elle a choisi. Elle a choisi la bonne part. Elle est sortie du doute et de peut-être être irrésolue. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Puis peut-être parce qu'elle avait un choix. Hein? Je retourne-tu vers mon peuple? Je retourne-tu vers ce que je connais? Puis, hein? Elle est passée de ce qu'elle connaissait très bien pour se plonger totalement dans l'inconnu. Comme on a vu mardi, le vide, la peur, c'était tout de l'inconnu. Mais Dieu l'a rattrapé exactement là. Elle avait une espérance ferme. Écoutez à ce sujet-là, Philippiens, chapitre 1, verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir. » Mais c'est un gain. C'est Paul qui nous dit ça dans Philippiens 1, 20 et 21. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les a pas en main, mais c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Et Ruth fait partie d'eux autres. Ça, c'est les deux premiers versets du chapitre 11. D'Hébreux, le chapitre de la foi, et c'est l'essence de la foi, cette ferme espérance, savoir que si Dieu est là, si Dieu est Dieu, si Dieu est fidèle, tout va bien aller. Et la clé dans la victoire spirituelle qui fait rage, c'est cette espérance. Un autre passage à ce sujet-là, c'est 1 Pierre. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. » On a une guerre qui veut s'emparer de nos pensées, de notre âme, mais garder nos pensées en Christ, c'est ce qui nous garde, les nourrir d'espérance, se connecter comme ça à Dieu, à qui il est, à comment il révèle être. Dans le livre de Ruth, on voit dans Ruth comment c'est sorti aussi dans le temps de prière, mais on voit que Dieu est un refuge, il est un protecteur, il est un rocher, il est le pourvoyeur, il est fidèle, il est puissant, tout puissant, souverain. Tellement de choses qui nous sont révélées sur qui Dieu est dans le livre de Ruth. Et lorsque ce type de foi remplie d'espérance est à l'œuvre dans nos vies et s'enracine dans qui Dieu est puis son caractère, ça va porter du fruit. Du fruit, c'est vivant, c'est le troisième fait sur notre image. Non seulement sa place dans le plan rédempteur, sa signification, mais le fruit de cette image. Regardez au chapitre 4, les versets 13 à 17. On lit essentiellement la conclusion du livre. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui, d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et il appela Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. » Donc, on voit, c'est la lignée messianique. Donc, l'union bénie ici par l'Éternel est le maillon tellement important, tellement rempli d'espérance de cette lignée messianique menacée. Savez-vous que Satan a essayé de mettre la mort, la séparation, l'inimitié dans la lignée messianique dès le début? On voit ça, Genèse 6, vouloir corrompre la race humaine. Jéconia, un des rois descendants du roi David, il est dans la lignée de Jésus. Il y a une malédiction qui avait été prononcée sur lui. Mais Dieu a tout renversé ça. Mais Dieu a restauré la vie là où Satan voulait mettre la mort. Puis il a mis non seulement la vie, mais il a mis l'unité, il a mis l'amour, il a mis ce que juste lui peut mettre, une pleine restauration. Donc notre espérance en Dieu n'est pas en vain. Elle est une espérance que Dieu va tout faire parfaitement, il va s'occuper absolument de tout. On n'a pas à s'inquiéter. Dieu est le Dieu vivant qui donne la vie à ce qui est mort, qui donne du fruit à tout ce qui touche, parce qu'il est le Dieu vivant. Et notre accès à cette vie, notre accès à ce fruit, c'est notre foi. Le juste vivra par sa foi. Mais si je dirige ma vie avec mes raisonnements, ma logique humaine, mes tendances à moi, de ma chair, ça va être la mort, la séparation, le désespoir. Mais si on va au Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, si on va à lui, si on va à lui tel que nous sommes, à lui tel qu'il révèle être, on va regorger de vie puis du fruit de cette vie, le fruit de l'esprit. Et ça m'a une question très importante ce matin. Que produit ta vie en ce moment? Puis on va y aller sur un angle simplement, là, que produit ta vie? Ça produit la vie ou la mort? La vie, c'est l'union, le rapprochement, la multiplication. La mort, c'est la séparation, l'animosité. Vous connaissez Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse un sacrifice. » Ce n'est pas naturel à notre nature. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous avez vu le beau fruit qui est sorti des lèvres de Ruth? Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Le fruit de ses lèvres confessait Dieu et sa vie. Et sur nos lèvres, justement, je vais vous amener deux passages, des proverbes. C'est fort, les proverbes. Il y a tellement des vérités qui sont amenées là. C'est comme une capsule de vérité qui nous est donnée. Proverbe 15, verset 4, ça dit, « La langue douce est un arbre de vie. » Mais la langue perverse brise l'âme. Écoutez aussi, Proverbe 18, 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Oh, que ça nous fasse réfléchir. Ce qui sort de nos lèvres est directement relié, où est le fruit, de ce dont nous nourrissons notre cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Jésus parlait aux pharisiens, puis il leur a dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La victoire de l'espérance de la foi se nourrit son cœur. de Dieu, de ses paroles. Ça remplit notre vision spirituelle. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du Dieu de toute espérance, notre refuge, notre rocher qui nous délivre, qui nous sauve. Il est Jéhovah Oshia. Il nous sauve, il nous délivre de toutes nos peurs et nous comble de sa sécurité en nous couvrant de son aile. Je veux conclure avec un verset. Mais en fait, là, un verset, je vais donner un autre après, mais... Connaissez, quelqu'un ici, peut-être vous serez même capable de réciter... Il y a tellement de versets précieux dans Ésaïe, mais vous connaissez Ésaïe 41:10? Ça vous dit quelque chose si je vous dis la référence? « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Pensez-vous que Ruth avait sujet de promener des regards inquiets? S'il y en a une qui avait bien un sujet et qui aurait pu être justifiée, c'était bien elle. Mais la tournure heureuse des événements nous montre qu'elle n'a pas juste promené, probablement que pendant un bout de temps, elle a promené des regards inquiets, mais elle les a arrêtés sur l'Éternel. Puis c'est ça que je veux vous amener. Écoutez bien, psaume 46 aussi, il est connu, c'est tellement beau. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est mon appel ce matin. Arrêtez. Comment des fois on s'agite, on est tout énervé. Alors que Dieu, qui est sur son trône, qui règne éternellement, nous dit juste « Arrête. Arrête et regarde-moi, considère-moi. Sache que je suis Dieu et je domine. » Arrêtez de chercher le salut à gauche, à droite. Le salut est en Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ, le seul sauveur. Si vous n'êtes pas sauvé, venez vous réfugier sous l'aile du Dieu qui sauve, le Dieu de toute espérance. Et si vous êtes un enfant de Dieu, arrêtez et sachez apprécier que l'Éternel est Dieu, qu'il domine, qu'il est avec nous, qu'il est une haute retraite et reposez-vous dans ses faits. Est-ce que tu as une foi qui se repose? Il y a même un cantique en anglais là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui savent, mais je ne sais pas si on l'a en anglais. « My faith has found a resting place. » Je ne sais pas si ça existe en français, mais c'est « Quelle vérité, ma foi a trouvé un lieu de repos. » Et ce lieu, c'est devant l'Éternel, c'est en l'Éternel lui-même. Et c'est là que j'aimerais qu'on aille ensemble. Merci Seigneur pour ce temps béni. Parce qu'on a ouvert ta parole vivante, ta parole qui nourrit l'espérance, ta parole qui te révèle, toi, le Dieu vivant, vrai, qui sauve, qui restaure, qui prend des gens dans des situations complètement insécurisantes, de fragilité, et qui les place sur le roc de Jésus-Christ, qui les place sur le roc de ta parole. Merci Seigneur pour ce livre qui nous renouvelle notre espérance. Seigneur, tu vois chacun ce qu'on vit. Peut-être que certains, dans la famine qu'ils vivent, ont le goût de retourner à Moab, en Égypte. Oh Seigneur, qu'on puisse tous voir que cette famine que tu permets dans nos vies, c'est un rendez-vous pour te rencontrer. Oh, que comme Ruth, on décide par la foi de te chercher, de prendre la bonne part, de venir s'abriter sous ton aile. Merci Seigneur que ces vérités aussi nous parlent du grand salut qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un ici n'est pas encore sauvé par Jésus, le seul sauveur, celui qui est venu, Dieu fait homme, pour nous sauver, qui a dit lui-même, « Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Si quelqu'un est perdu, encore mort dans ses offenses et ses péchés, qu'aujourd'hui, il voit le Sauveur, qu'il voit la croix, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouvre les yeux de tous et chacun ici, Seigneur. Révèle-toi à nous, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous